La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Un très bon sabbat à chacun d'entre vous. Et nous avons ce matin un sujet que nous souhaiterions considérer ensemble, qu'est la Bible et ainsi que les apocryphes. La Bible et les apocryphes. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur et j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu es maintenu en nous le souffle de vie jusqu'à cet instant. Et Père, si tu le fais, c'est afin de pouvoir continuer à nous faire grâce. Et nous te remercions pour cela, pour Jésus. Et maintenant, nous aspirons à ouvrir le Saint-Livre et mieux le comprendre. Et mieux comprendre sa composition, de quoi il est composé. Qu'est-ce que ta parole exactement? Alors, veuille nous éclairer, que tu puisses nous conduire et de manière à ce que nous soyons en mesure d'y voir clair en ce qui concerne l'inspiration de ta parole et de ce qui la compose. Bénis chacun d'entre nous et dispose nos cœurs à comprendre ce sujet qui n'est pas simple, mais nous allons, et aide-nous à simplifier la chose au maximum, et bénis aussi ton serviteur afin qu'il puisse présenter la chose de manière simple et complète, de sorte que ton peuple puisse recevoir édification. Fais au-delà de ce que nous pouvons te demander, car nous t'en prions en Jésus. Cette présentation ne sera pas exhaustive, mais complète. Alors, quand on dit exhaustif, c'est quoi, en fait? Parce que c'est un bien grand mot. Exhaustif, c'est qu'on épuise un sujet. C'est-à-dire qu'on prend tous les textes qui existent sur un sujet, ok? Et à tel point que même si vous passez par derrière, vous n'allez pas trouver quelque chose d'autre de plus que ce qui a déjà été présenté, ok? Cette présentation ne sera pas exhaustive, mais elle sera complète. C'est-à-dire qu'elle va couvrir le sujet de manière à ce que, après coup, il n'y ait, on espère, plus d'interrogations, d'accord? Mais on ne va pas prendre absolument toutes les références qui peuvent exister par rapport à ce sujet, d'accord? Et je vais vous dire à quel moment, très précisément, cela est le cas, d'accord? La Bible. La Bible se compose de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dieu donna le premier aux Hébreux et le second aux Juifs qui ont accepté le message de Jésus-Christ. Ces deux parties constituent la révélation de Dieu à l'homme. L'Ancien Testament des Bibles modernes comprend 39 livres qui sont classifiés comme suit. Le Pentateuch, qui sont les cinq premiers livres et qui sont autrement qualifiés de loi, d'accord? Donc lorsqu'on parle de la loi, cela ne fait pas nécessairement allusion aux 10 commandements, mais le Pentateuch était aussi considéré comme étant la loi, d'accord? Donc prenez, par exemple, faites une recherche un jour sur la loi et les prophètes, et vous allez voir qu'en fait, il est fait allusion, en fait, au Pentateuch, ok? Cette expression fait notamment référence au Pentateuch et pas exclusivement à la loi des 10 commandements, D'accord? Donc, nous avons 5 livres dans le Pentateuque. Les livres historiques, nous en avons 12. D'accord? Les livres poétiques, nous en avons 5. Et les livres prophétiques, nous en avons 17. OK? Donc, cela nous donne un total de 39 livres. Tout à l'heure, j'ai précisé « moderne » car auparavant, on comptait 22 ou 24 livres. Mais il s'agissait toujours des mêmes écrits qui étaient regroupés de façon différente. Un exemple, les 12 petits prophètes, ce que l'on appelle les petits prophètes, ne comptaient que pour un livre dans certaines éditions du passé. Okay? Mais c'est toujours ces mêmes écrits qui ont été de tout temps présents dans les versions hébraïques, okay, de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament contient quant à lui 27 livres qui sont classifiés comme suit. Vous avez les 4 évangiles, vous avez le livre historique de l'Église apostolique, qui est Actes des Apôtres, ainsi que 21 épîtres, dont une majorité qui sont dites pauliliennes, c'est-à-dire qui proviennent de Paul, et vous avez un livre prophétique qui est l'Apocalypse. Si toutes les traductions françaises de la Bible contiennent 27 livres dans le Nouveau Testament, nous constatons cependant que certaines versions ont 46 livres dans l'Ancien Testament au lieu de 39. Et la question que nous devons nous poser maintenant, c'est pourquoi? Avant d'aller plus loin, il y a un point que nous devons considérer, d'accord? Ou qu'il nous faut poser et reconnaître. C'est que toute l'inspiration n'est pas dans la Bible ayant 66 livres, d'accord? Puisque 39 plus 27 est égal à 66, ok? Il nous faut reconnaître que toute l'inspiration, tout ce qui a été inspiré, n'est pas contenu dans la Bible. C'est très précisément que nous avons aujourd'hui, d'accord? Et nous allons, pour appuyer ce que nous venons de dire, passer en revue, ou tout du moins considérer un certain nombre de passages de l'Écriture. Le premier se trouve en 1 Roi, chapitre 4, versets 29 à 33. 1 Roi, chapitre 4, versets 29 à 33. « Et Dieu donna à Salomon de la sagesse, une forte grande intelligence et un esprit aussi vaste que le sable qui est sous le bord de la mer. Et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les Orientaux et toute la sagesse des Égyptiens. Ils étaient plus sages qu'aucun homme. » Je reprends, verset 31. « Ils étaient plus sages qu'aucun homme. Plus qu'Étan, les Zrachites et Éman, Calcol et Darda, les fils de Makol. Et sa réputation se répandit parmi toutes les nations d'alentour. Il prononça 3000 sentences et ses cantiques furent au nombre de 1005, est-il dit dans ma version. Il a aussi parlé des arbres, depuis le cèdre qui est au Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Notez ce qu'il est dit là. On nous dit que il y a des sentences et des cantiques que Salomon a écrits. Ces choses, nous ne les avons pas dans la Bible que nous avons là. D'accord? Et elles ne se retrouvent en fait pas même dans les apocryphes en réalité. D'accord? Il y a des choses qui ont été inspirées, mais qui n'ont pas été conservées. Okay? Et c'est le point que je veux faire ici en fait. Il y a des choses qui ont été inspirées, mais qui n'ont pas été conservées et que Dieu n'a pas, je dirais, jugé utile que nous puissions avoir, ok, jusqu'à présent. Ok. Il n'y a pas que cela. En 1 Roi 11, verset 41, il nous est parlé du livre des actes de Salomon. 1 Roi 11, 41, « Quant au reste des actions de Salomon et tout ce qu'il fit et sa sagesse, Cela n'est-il pas écrit au livre des Actes de Salomon? Ok. Question qui implique que la réponse est positive. Bien évidemment, il y a un livre des Actes de Salomon. Mais est-ce que nous l'avons aujourd'hui, nous? Non. Mais à l'époque, eux, ils l'avaient. D'accord? Il y a aussi les livres des prophètes Nathan, Achija et Jéhido. Deux Chroniques 9, verset 29. Quant au reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète, dans la prophétie d'Achija, le Silonite, et dans la vision de Jéhido, le voyant, touchant Jéroboam, fils de Nébat? Et sans, en plus de ceci, nous avons aussi les livres des prophètes Shemajia et Ido. En 2 Chroniques, chapitre 12, verset 15, « Or, les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemajia, le prophète, et d'Ido, le voyant, aux généalogies ?» Et on a un deuxième verset qui se trouve au chapitre 13, au verset 22, « Le reste des actions d'Abija et sa conduite et les paroles et ses paroles sont écrites dans les mémoires du prophète Ido. » D'accord? Donc, voilà ce qu'il en est concernant l'Ancien Testament, ce que nous pouvons présenter comme texte qui nous montre que tout ce qui a été inspiré n'est pas contenu dans la Bible. Ok? La Bible est inspirée, mais tout ce qui a été inspiré n'est pas contenu dans la Bible. Ok? Puisqu'il nous est parlé d'ouvrages que nous n'avons pas. Ok? Qu'en est-il pour le Nouveau Testament? Est-il fait mention d'ouvrages que nous n'avons pas dans notre Bible aujourd'hui? Oui. En Colossiens 4, verset 16. Et après que cette lettre, donc la lettre, l'épître de Paul aux Colossiens, aura été lue parmi vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez aussi celle de Laodicée. Donc, Paul avait écrit une lettre à l'église de Laodicée. D'accord? Et il a demandé que, lorsque vous avez fini de lire cette lettre, vous la faites lire aux Laodicéens et vous-même, vous lisez celle des Laodicéens. Est-ce que nous avons l'épître de Paul aux Laodicéens? Non, nous ne l'avons pas. Et pourtant, Paul en parle. Donc, le point que nous avons voulu... Je reprends ma phrase parce que ça n'a pas de sens. Le point que nous avons voulu établir ici, c'est que tout ce qui a été inspiré n'est pas contenu dans la Bible. D'accord? Maintenant, abordons enfin la question des apocryphes. Le terme apocryphe vient du grec apokryphos, qui signifie caché. Ainsi, les livres apocryphes sont les livres cachés. De manière littérale, apocryphe signifie caché, mes amis. Le sens littéral. Donc, les livres apocryphes sont les livres cachés. Et je répète encore une fois, c'est le sens littéral. Il n'y a pas d'interprétation derrière, en fait. Si vous attachez au sens du mot, c'est caché. Donc, ce sont des livres cachés, en fait. D'accord? Ce terme, apocryphe, a été utilisé de plusieurs manières, de temps à autre, et par différents groupes et individus. Certains auteurs anciens ont appliquer ce terme à des livres contenant une sagesse ésotérique ou mystérieuse qui était trop compliquée pour l'homme ordinaire et qui ne pouvait être comprise que par les initiés. Il s'agissait donc, à ce moment-là, le sens de apocryphe était de livres secrets, d'accord, cachés au grand public. D'autres ont employé ce terme dans le sens désobligeant de faux, fallacieux, hérétique, extra-canonique. Donc caché ou retiré de la circulation. Et même dans les milieux ecclésiastiques, le terme apocryphe a été et est encore utilisé de différentes manières. Dans certains de ces milieux, il est appliqué à toute littérature religieuse de l'Antiquité qui est en dehors du canon des Saintes Écritures. Parmi les protestants, il est généralement utilisé pour spécifier les livres qui ont été inclus dans la copie de la Septante grecque et de la Vulgate latine, mais qui ont été exclus du canon hébreu des Écritures. Les catholiques appellent au moins 12 de ces livres comme deutéro-canoniques et utilisent apocryphes pour s'appliquer à d'autres publications extra-canoniques que les protestants appellent pseudépigrapha, ce qui signifie faussement intitulé. Considérons les apocryphes du Nouveau Testament. Alors, ils se découpent en 7 parties. Nous allons les lire rapidement. La première partie sont les évangiles apocryphes. Donc, vous avez l'évangile selon les Égyptiens, selon les Hébreux, de Pierre, des Ébionites, de Thomas, de Jacques, de Nicodème. La deuxième partie sont les actes apocryphes. Donc, les actes de Jean, de Paul, de Pierre, d'André, de Thomas et les actes secondaires. La troisième partie sont les épîtres apocryphes. Vous avez les épîtres de Jésus à Abgarus. Donc, apparemment, on dit que, on suppose que Jésus aurait écrit des épîtres à un certain Abgarus. D'accord? L'épître de Pierre à Jacques. L'épître de Paul aux Thessaloniciens. D'accord? Donc, on l'a vu tout à l'heure dans la Bible. Mais, oh, et merci très bien, mon frère. L'épître de Paul aux Laodicéens. D'accord? On l'a vu, Paul en parle. Mais, il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que ça existe. D'accord? L'épître perdu de Paul aux Corinthiens. D'accord? Les lettres de Paul et de Sénéca, l'épître de Tite et les épîtres des apôtres. D'accord? Quatrièmement, les pères apostoliques. Donc, vous avez Clément 1, Clément 2, ou 1 Clément ou 2 Clément, comme 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Donc, 1 Clément, 2 Clément, l'épître de Barnabas, le berger de Hermas et la Didachée. D'accord? Cinquièmement, vous avez les apocalypses apocryphes. Vous avez l'Ascension d'Ésaïe, l'Apocalypse de Pierre, le 5e et 6e livre d'Esdras, la prophétesse chrétienne, l'Apocalypse de Paul, de Thomas, d'Étienne et l'Apocalypse de la Vierge. Marie, très précisément, je précise pour vous. OK. Sixièmement, nous avons les écrits gnostiques apocryphes. D'accord? Donc, ces livres datent du milieu du 4e siècle après Jésus-Christ. Cette collection se compose de 13 codex, pas tous entièrement conservés, desquels environ 1200 pages, dont certaines ne sont conservées qu'en fragments, existent encore. Ces œuvres consistent en des évangiles, des actes d'apôtres et des apocalypses apocryphes. Sont également inclus des lettres, des dialogues, des livres dits secrets, des traités religieux et un livre de littérature sur la sagesse. Enfin, la 7e catégorie sont les apocryphes modernes, d'accord? Vous avez par exemple le livre de Jachère, qui a été écrit en 1751, ok? La crucifixion de Jésus par un témoin oculaire, qui a été publié en 1851. Vous avez la 29e, tout du moins le 29e chapitre des Actes en 1871. Le rapport de Pilate en 1879. Les confessions de Ponce Pilate en 1889. La vie inconnue du Christ qui est apparue en 1894. Le deuxième livre des actes perdus depuis longtemps en 1904. L'évangile du Verseau en 1911. Et les épîtres perdus de la Bible en 1926. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses que... apparemment, nous aurions manqué. Donc, à en croire cet amas de textes, notre Bible est bien petite. Mais qu'en est-il réellement? Les livres apocryphes du Nouveau Testament n'ont jamais tenu une position d'estime parmi les chrétiens égale à celle tenue par les apocryphes de l'Ancien Testament. Peu d'entre eux ont été sérieusement considérés par l'Église, et par les Églises, devrais-je dire, comme candidats à la canonicité. Et pourquoi? La raison principale, mes amis, est qu'aucun des livres, Épîtres, Apocalypse, Actes, toutes les catégories que nous avons vues là, habituellement classées parmi les apocryphes du Nouveau Testament, n'est antérieur au IIe siècle. Vous avez compris ça? Aucun d'entre eux ne date d'avant le IIe siècle. Ils datent tous d'à partir du IIe siècle. Ainsi, aucun d'eux ne peut à juste titre revendiquer être l'œuvre des apôtres, ce qui est le critère déterminant pour entrer dans le canon. De plus, leur qualité littéraire et spirituelle les place sans doute possible au second plan. Nous avons été avertis en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était proche. Les apôtres, et ici Paul, avaient mis en garde les croyants de ne pas accepter facilement comme ça quelques inspirations, quelques paroles, quelques lettres qu'on dirait venir d'eux. C'est donc que le danger est bien existant. Dieu avait vu ce danger et il a averti son peuple en disant « Faites attention à ce que l'on vous présente comme venant de tel apôtre, tel apôtre. » Et on voit ici, lorsqu'on se rapproche du texte, comme si le jour de Christ était proche. Donc, il y avait des gens qui écrivaient des lettres au nom des apôtres pour enseigner la prophétie de manière fallacieuse, notamment concernant le retour du Christ. Donc, de manière à savoir si un ouvrage quelconque qui est dit comme étant, comme provenant, qui est présenté comme provenant des apôtres, il y a deux critères, mes amis. Le premier, c'est sa datation. Son histoire remonte à quand? Si on n'est pas capable de faire remonter son histoire avant le deuxième siècle, il ne faut même pas réfléchir, c'est de côté, mes amis. Le deuxième point, c'est son contenu. Est-ce qu'il s'accorde avec le reste que nous avons là dans la Bible? Le peu là que nous avons, que je dis peu, j'emploie le mot volontairement. Mais est-ce que ça s'accorde avec ce qu'il a? Parce que si ça ne s'accorde pas, mes amis, raison de plus pour le rejeter. Concernant les apocryphes liés à l'époque du Nouveau Testament, Ellen White déclara dans « The Youth and Structure » le 1er avril 1872, paragraphes 1 et 2, bien qu'entouré d'influences défavorables et placé dans toutes sortes de circonstances, Christ conserva une identité de caractère parfaite. Rien de surnaturel ne se produisit au cours des 30 premières années de sa vie à Nazareth qui aurait pu attirer l'attention du peuple sur lui. L'apocryphe du Nouveau Testament tente de compenser le silence des Écritures à l'égard du début de la vie du Christ, en donnant un aperçu fantaisiste des années de son enfance. Ces écrivains racontent de merveilleux incidents et miracles qui caractérisèrent son enfance et le distinguèrent des autres enfants. Ils relatent des contes fictifs et des miracles frivoles qu'il aurait opérés, attribuant au Christ l'étalage insensé et inutile de sa puissance divine et falsifiant son caractère en lui attribuant des actes de vengeance et des actions malicieuses qui étaient cruelles et ridicules. Combien l'histoire du Christ, telle que rapportée par les évangélistes, qui est belle dans sa simplicité naturelle, ne se distingue-t-elle pas de ces histoires dénuées de sens et de ces contes fictifs? Ils ne sont pas du tout en harmonie avec son caractère. Ils sont plus selon l'ordre des romans qui sont écrits, lesquels n'ont aucun fondement dans la vérité et dont les personnages décrits sont le fruit d'une création fantaisiste. Notez qu'ici, elle met très clairement en garde contre les apocryphes du Nouveau Testament qui disent des choses concernant le Christ et concernant son enfance qui le rendent différent des autres enfants. D'accord? Et il y a un point que j'aimerais souligner. C'est que elle dit l'apocryphe au singulier. Et tout au long de cette présentation, vous allez voir ce terme apparaître au singulier à de nombreuses reprises. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que, en fait, bien que ce soit au singulier, après elle dit « ses écrivains racontent ». En fait, il faut comprendre que le mot « apocryphe » au singulier, en fait, couvre l'ensemble des apocryphes, en fait. D'accord? Tout comme la Bible couvre un ensemble de livres. En disant ça, je vous ai déjà dit beaucoup de choses. OK. Nous avons vu ce qu'il en est concernant le Nouveau Testament. Nous avons vu que les apocryphes du Nouveau Testament qui sont présentés aujourd'hui, il y a deux raisons pour lesquelles on ne peut pas les considérer. La première, c'est par rapport à leur date. La deuxième, c'est par rapport à leur contenu, qui ne s'accorde pas avec ce qui est dit dans les écrits que nous avons. Considérons maintenant les apocryphes de l'Ancien Testament. Nous pouvons les compter au nombre de 15. Et vous m'excuserez pour la petitesse de l'écriture, mais par rapport à la longueur du point numéro 10, je ne pouvais pas faire deux colonnes. Alors, nous avons premièrement le premier livre d'Esdras. Deuxièmement, le second livre d'Esdras. Troisièmement, Tobie. Ensuite, Judith. Cinquièmement, le supplément au livre d'Esther. Sixièmement, la sagesse de Salomon. Septièmement, la sagesse de Jésus, le fils de Sirac. OK? Alors, il faut savoir que la version hébraïque de Jésus, okay, était assez répandue dans l'Ancien Testament. Donc, par exemple, Josué, son nom en hébreu, en fait, c'est équivalent à Jésus, en fait. Okay. Huitièmement, Baruch. Neuvièmement, la lettre de Jérémie. Dixièmement, la prière de Azaria et le chant des trois jeunes hommes, okay, des trois jeunes hébreux dans la fournaise. Onzièmement, Suzanne. Douzièmement, Belle et le dragon. Treizièmement, la prière de Manassé. Et quatorzième et quinzièmement, le premier et second livre des Maccabées. Qu'en est-il par rapport à ces ouvrages apocryphes? Eh bien, faisons un peu d'histoire de ces apocryphes. Et commençons par une base sûre. La parole de Dieu. L'apôtre Paul a reconnu que les oracles de Dieu, en faisant allusion aux écrits de l'Ancien Testament, ont été confiés aux Juifs. En effet, en Romains 3, versets 1 et 2, « Quelle est donc la prérogative du Juif ?» ou « Quelle est l'utilité de la circoncision ?» Verset 2, « Elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Paul nous dit que les oracles de Dieu, les messages de Dieu, okay, ont été confiés à qui? Aux Français? Oh! Peut-être à l'Église catholique. Qu'en pensez-vous? aux Juifs, il dit. C'est donc vers les Juifs que nous devons nous tourner pour connaître les écrits révélés par Dieu à son peuple, à l'époque de l'Ancien Testament. Or, lorsque nous consultons l'Ancien Testament détenu par les Juifs, tel que la version du rabbinat français par exemple, on constate que ce dernier ne contient que les 39 livres que nous avons vus tout à l'heure. Là-dessus, la position de la communauté juive n'a jamais changé. De plus, l'historien Flavius Joseph, qui a vécu au 1er siècle, entre le 1er et le 2e, eh bien, affirme que le nombre de livres tenus ou considérés comme d'inspiration divine par les Juifs n'inclut pas ceux écrits depuis Artaxerxès. En effet, notre histoire, a-t-il dit, a été très méticuleusement écrite depuis Artaxerxès, mais elle n'a pas été estimée de la même autorité avec la première par nos ancêtres, car il n'y a pas eu de succession exacte des prophètes. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Mes amis, cela cible directement les apocryphes qui ont été ajoutés après que le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, ait écrit son livre. Il y a en fait un trou, je dirais, ok, en matière d'inspiration en fait, en matière de don spirituel qui a été accordé en fait. Du moment que du moment où le dernier prophète de l'Ancien Testament a prophétisé, Malachie, jusqu'au moment où on a le christianisme qui arrive avec Jésus en fait. Vous avez en fait un trou en fait. Et c'est à ce moment-là que les apocryphes apparaissent en fait. Et c'est pour cela que Flavius Joseph affirme que les livres qui ont été écrits à partir de la période d'Artaxerxès ne sont pas considérés par les Juifs comme étant d'inspiration divine, en fait. D'accord? Donc, les apocryphes sont ciblés à ce moment-là. OK? Au 3e siècle avant Jésus-Christ, le grec était la langue la plus répandue. Et afin de garnir sa bibliothèque, Ptolémée Philadelphe demanda la traduction des écrits religieux juifs. Et c'est ainsi qu'est apparue la Septante, d'accord? La traduction grecque des écrits inspirés juifs, auxquels furent ajoutés les apocryphes. Donc, les apocryphes sont entrés dans, je dirais, la Bible des Juifs, donc l'Ancien Testament, avec la Septante. OK? Septante, qui est, je le rappelle, la traduction grecque de l'Ancien Testament. D'accord? Écrit en grec, le Nouveau Testament se réfère souvent aux écrits de l'Ancien Testament. Et à de nombreuses reprises, les apôtres citent directement depuis la traduction grecque de la Septante. Mais voyez-vous, à aucun moment, les apôtres ne citent les apocryphes. Et à cet égard, les apôtres ont suivi Jésus, qui lui non plus n'a jamais cité les apocryphes pour enseigner l'Évangile. Nous avons considéré l'Ancien Testament, le Nouveau. Intéressons-nous maintenant à la période de ce que l'on va appeler le Moyen-Âge. En ce qui concerne la relation des apocryphes avec le canon de l'Ancien Testament, on peut noter trois prises de position parmi les confessions chrétiennes. La première, c'est celle de l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine a accordé à 12 des apocryphes un statut canonique complet. La quatrième session du Concile de Trente, le 8 avril 1546, a décrété que, à l'exception de 1 et 2 Esdras, et de la prière de Manassé, les livres apocryphes entiers et avec toutes leurs parties sont sacrés et canoniques. Un anathème est en outre prononcé contre quiconque les rejette sciemment et délibérément. Et bien que la canonicité et l'autorité soient refusées, 1 et 2 Esdras ainsi que la prière de Manassé sont inclus dans les manuscrits latins de la Vulgate et dans les éditions imprimées ultérieures. Ils ont été placés dans un annexe à la Bible. La première, c'est celle de l'Église catholique, c'est celle des Églises protestantes. L'Église d'Angleterre, les Églises réformées, luthériennes et zurichoises soutiennent que les livres apocryphes sont utiles, mais non canoniques. Le sixième des 39 célèbres articles de l'Église d'Angleterre en 1562 déclare que ces livres sont lus pour exemple de vie et de l'enseignement des mœurs. Mais l'Église, ajoute-t-il, ne les utilise pas pour établir une doctrine quelconque. Le réformateur suisse Ecolampadius a déclaré en 1530 « Nous ne méprisons pas Judith, Tobie, Ecclésiastique, Baruch, les deux derniers livres d'Esdras, les trois livres de Maccabée, les ajouts à Daniel, mais nous ne leur accordons pas l'autorité divine avec l'autre. » Les livres apocryphes ont été inclus dans la première Bible anglaise complète, la Bible de Wycliffe en 1382, et dans toutes les Bibles anglaises du XVIe siècle, ainsi que dans la King James Version, the Authorized Version de 1611. Au début, les apocryphes étaient entrecoupés entre les différents livres de l'Ancien Testament. Dans sa traduction allemande, Martin Luther a séparé ces livres et les a placés, à l'exception de 1 et 2 Esdras, qui ont été totalement exclus des traductions de la Bible allemande, en tant que groupe distinct à la fin de l'Ancien Testament, en les préfaçant de la façon suivante. Apocryphe, déclara Martin Luther, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas considérés comme égaux aux Saintes Écritures, mais qui sont profitables et bons à lire. Voilà ce que déclara le réformateur Martin Luther. Okay? La Bible anglaise de Coverdale de 1535 a suivi Luther en séparant ses livres, mais y a ajouté 1 et 2 Esdras. La préface de la Bible de Genève disait à leur sujet ce qui suit. En tant que livres provenant d'hommes pieux, ils ont été reçus pour être lus pour la promotion et l'avancement de la connaissance de l'histoire et de l'enseignement des mœurs pieuses. D'accord? L'un des traducteurs de la King James Version, George Abbott, en tant qu'archevêque de Canterbury, publia un décret en 1615 selon lequel tout imprimeur qui oserait lier et vendre une copie de la Bible anglaise sans l'apocryphe serait passible d'une peine d'emprisonnement d'une année entière. Cependant, des problèmes doctrinaux ont amené les apocryphes à être de plus en plus exclus des Bibles au cours des années suivantes. Finalement, au début du 19e siècle, la British and Foreign Bible Society décida de refuser tout soutien à la publication et à la diffusion de ces livres litigieux. La troisième position est celle de l'Église grecque orthodoxe. L'Église grecque orthodoxe n'a jamais pris de position ou de décision relative au canon des Écritures. La Septante, qui comprend l'Apocryphe, est acceptée comme le texte authentique de l'Ancien Testament. Le synode de Jérusalem en 1672 a placé l'apocryphe en coordination avec les livres canoniques classiques, tandis que le synode de Constantinople de la même année a pris la position que ces livres ne sont pas égaux au canon, mais qu'ils sont bons et dignes d'éloge. Et ils ne doivent pas être totalement rejetés. Dans la pratique, cependant, cette communion a évolué vers une acceptation presque complète de l'apocryphe. Il y a une Bible qui est intitulée la Tob. Est-ce que vous la connaissez? La Tob. Est-ce que vous savez ce que signifie Tob? La traduction œcuménique de la Bible. OK? D'accord. Et il est intéressant de voir que cette version qui a été publiée en 1975 et qui a été effectuée conjointement par des catholiques, des protestants et des orthodoxes, replace les livres apocryphes et considérés par l'Église catholique comme deutérocanoniques. Quand on dit deutérocanoniques, c'est un terme assez barbare, mais pour le fait de Johanna, je vais expliquer ce que ça signifie, deutérocanoniques, c'est-à-dire qui sont entrés dans le canon après les autres. D'accord? Donc, quand tu entends deutérocanoniques, c'est qu'ils n'ont pas été considérés, ils n'ont pas été acceptés comme étant authentiques dès le départ. C'est après qu'ils ont été acceptés. Et donc, cette version replace ces ouvrages à la fin de l'Ancien Testament avec une introduction intéressante. OK? Alors, on va lire ensemble l'introduction que fait la Tob concernant ces livres apocryphes ou deutérocanoniques. D'accord? Et prêtez bien attention. Les Juifs ne les considèrent pas comme inspirés. Le Concile de Trente les confirme comme canoniques pour les catholiques. Les protestants ne les acceptent pas comme des livres inspirés par Dieu. Les orthodoxes n'ont pas pris de décision tranchée. Mes amis, je veux juste vous poser une question. D'après l'apôtre Paul, les oracles de Dieu, très précisément l'Ancien Testament, ont été confiés à qui? Aux Juifs. Donc le mouvement œcuménique reconnaît que les apocryphes ne font pas partie du canon de l'Ancien Testament, en fait. Il y a un problème avec les apocryphes. Je dirais même un sérieux problème. La raison pour laquelle les apocryphes ne peuvent pas être mis sous le même pied d'égalité avec la Bible réside dans le caractère interne de ces livres eux-mêmes, mes amis. En fait, ils n'ajoutent rien d'essentiel à l'histoire de la rédemption, au plan du salut. Mais ils enseignent des doctrines et encouragent des pratiques qui ne sont pas en harmonie avec les livres acceptés du canon. Par exemple, les prières et les offrandes pour les morts y sont enseignées en 2 Maccabées 12, 41-45 et en Baruch 3, verset 4. Deuxièmement, l'exaltation des apparences extérieures de la religion. L'aumône et l'œuvre y sont présentés comme expiant le péché et rapportant une récompense. En 2 Esdras 8, 33, Tobie 12, 9 et Sirach 3, 14. Un troisième point, c'est que le livre de Tobie présente un mélange de piété, de folklore ainsi que de magie. Le démon, Asmodée, est représenté comme un meurtrier jaloux des 7 épouses successives d'une jeune femme, mais est finalement exorcisé par les entrailles brûlantes d'un poisson. Pouvons-nous lire en Tobie 6, 1 à 8, 8, 1 à 9. Un médicament puissant dérivé de la gale de ce même poisson guérit la cécité d'un père qui avait été causée par des excréments d'oiseaux. Ça, on peut le lire en Tobie 2, 9, 10, 6, 8, 11, 7 à 15. Quatrièmement, le langage et la conduite de Judith, caractérisés par la double action et le mensonge, sont représentés comme rencontrant l'approbation et l'aide de Dieu. Judith 9, 10 et 13. La sagesse de Salomon enseigne que la doctrine platonicienne selon laquelle l'âme de l'homme est intrinsèquement immortelle et que son corps est un simple obstacle à l'âme. Au chapitre 9, verset 15. Ce qui est une vision étrangère à la fois à l'Ancien et au Nouveau Testament. De plus, l'auteur a également emprunté la doctrine de Platon sur la préexistence de l'âme. Au chapitre 8, versets 19 et 20. Donc, il y a ce problème dans le fond en matière de doctrine et de pratique. C'est que les apocryphes de l'Ancien Testament ne s'harmonise pas, en fait, avec les ouvrages que les Hébreux et les Juifs, très précisément, acceptaient comme leur Bible, ce que nous appelons l'Ancien Testament aujourd'hui. Mais voyez-vous, il y a une utilité aux apocryphes. Il y a une utilité aux apocryphes. Bien que les livres apocryphes ne puissent prétendre à la canonicité, ils peuvent toutefois être utiles à l'étudiant de la Bible. En effet, ils fournissent une connaissance de l'écart de 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils nous aident à comprendre le climat social, politique et religieux du Nouveau Testament. Les livres des Maccabées, en particulier 1 Maccabée, retracent et nous rapportent les luttes des Juifs pour la liberté politique et religieuse contre la tyrannie du paganisme grec. Ils nous aident également à comprendre la montée des sectes telles que les pharisiens et les sadducéens. Ils jettent la lumière sur la croissance des institutions et des croyances parmi les Juifs de l'époque du Nouveau Testament et donc sous le contexte de l'Église primitive. En bref, vous l'aurez compris, les apocryphes ne sont peut-être pas bons à citer pour enseigner la doctrine, la prophétie, ce genre de choses, mais ils permettent de savoir ce qui se passait de manière historique, okay, au niveau du contexte, de la politique concernant la nation juive et l'Église chrétienne, en fait. Donc, il est vrai que ces auteurs n'ont pas été inspirés concernant l'enseignement de la sainte, pure et bonne doctrine, mais ils ont toutefois écrit des choses qui se passaient à leur époque. Et c'est là l'utilité des apocryphes, en fait. Et uniquement là, je précise. J'aimerais que nous considérions maintenant Ellen White et les apocryphes. Tout à l'heure, on a vu les apocryphes du Nouveau Testament, ce qu'elle a déclaré dessus, mais ici, on va voir, cette déclaration va concerner très, très spécifiquement ceux de l'Ancien Testament, en fait. Considérons Manuscript Releases, volume 16, page 34, paragraphe 3. Et là, c'est une vision, mes amis. Donc, si vous croyez dans le don de prophétie, cette déclaration devrait vous intéresser. Si vous n'y croyez pas, je respecte votre choix. En tout cas, moi, j'y crois. J'ai alors vu la parole de Dieu, pure et non frelatée, et que nous devons répondre de la façon dont nous avons reçu la vérité proclamée par cette parole. J'ai vu qu'elle avait été un marteau pour briser le cœur de Silex en morceaux, et un feu pour consommer l'escorie et l'étain, afin que le cœur soit pur et saint. J'ai vu que l'apocryphe était le livre caché, et que les sages des derniers jours devraient le comprendre. J'ai vu que la Bible était le livre standard qui nous jugera au dernier jour. Arrêtons-nous un peu ici. Nous avons là une vision, mes amis. Nous avons là une vision. Donc c'est quelque chose que Dieu lui a montré. Elle a vu que l'apocryphe, et on a vu tout à l'heure que ce terme, en fait, regroupe les apocryphes, était le livre caché. Donc, pour la messagère, cela n'a pas le sens de douteux, de hérétique, etc., mais de caché, d'accord? Il est le livre caché. Et elle dit que les sages des derniers jours devaient le comprendre. Ce point-là, je vais passer dessus, juste pour l'instant, car il nous faudrait, pour l'expliquer, considérer d'autres textes. Mais nous allons le faire juste après la phrase suivante que nous allons analyser maintenant. J'ai vu que la Bible était le livre standard. Donc remarque qu'elle fait là une distinction entre la Bible et les apocryphes. La messagère du Seigneur fait une distinction entre l'apocryphe, donc les apocryphes, qu'elle va appeler l'apocryphe, qui est le livre caché, avec la Bible en fait. Donc elle en fait deux livres en fait. Elle en fait deux livres, mes amis. Et elle dit que la Bible est le livre standard. Vous savez ce que signifie standard? C'est la norme, en fait. C'est la norme. Et cela se tient parce qu'elle dit qui nous jugera au dernier jour. OK. Si je vous dis que nous sommes jugés en France par rapport au code civil, c'est le code civil qui nous juge. Qu'est-ce que ça signifie, en fait? C'est que tout ce que vous avez besoin pour être bien avec le gouvernement, c'est de respecter le code civil. Vous comprenez? Voilà. Tu respectes le code civil et tout ira bien pour toi dans le pays des Gaulois. Voilà. Eh bien, mes amis, la Bible est le livre qui nous jugera au dernier jour. Si cet ouvrage est le livre qui nous jugera au dernier jour, cela signifie que tout ce qui concerne mon salut se trouve écrit ici. C'est clair pour vous? Je le reprends, parce que ça peut ne pas être clair. Mais si la Bible, la Sainte Bible, moi c'est marqué, pas n'importe quelle Bible, hein, c'est la Sainte Bible. Si la Bible, ce saint livre, est ce qui va nous juger au dernier jour, cela signifie que tout ce que Dieu a jugé bon de mettre ici est salutaire pour nous. C'est ce que nous avons besoin de savoir pour être sauvés. Les choses de l'autre livre ne sont pas salutaires. Elles sont bonnes à lire pour avoir une meilleure connaissance historique, pour avoir une meilleure compréhension. Mais ce qui est salutaire est là, mes amis. Ce qui est salutaire est là. OK. Maintenant, revenons sur la phrase d'avant. Elle dit qu'elle a vu que les sages des derniers jours devaient le comprendre, en parlant de l'apocryphe. Lorsqu'elle dit ça, elle est en train de citer un texte très particulier de la Bible. Vous savez lequel? Daniel 12. Et je vous ai mis trois versets pour voir que c'est à ça qu'elle fait allusion. Daniel 12, versets 3, 9 et 10. Et j'ai cité la version Darby, qui se rapproche de la King James à cet égard. Et prêtez attention à ce que j'ai souligné pour vous, parce que c'est à ça qu'elle fait allusion dans son passage. Verset 3. « Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Verset 9. « Et il dit, « Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. » Verset 10. Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés, et les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Les sages qui comprennent ici, ils arrivent dans l'histoire de ce monde à partir de quelle période en fait? Remarquez la deuxième expression que j'ai soulignée, le temps de la fin. Mes amis, lorsque nous étudions la prophétie, le temps de la fin commence à partir de 1798. À partir de 1798, c'est là que se termine la prophétie des 1260 jours prophétiques ou années littérales. Et c'est à partir de ce moment-là que commence le temps de la fin qui conduit les habitants de ce monde à la fin des temps. Car il ne faut pas confondre. Il y a la fin des temps et le temps de la fin. Le temps de la fin commence à partir de 1798. Donc, autrement dit, Elle est en train de dire ici que à partir de ce moment-là, les sages, et très précisément ceux qui vont accepter le message du sanctuaire, vont comprendre. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas ça qu'elle a dit. Elle n'a jamais parlé du sanctuaire, mais c'est du sanctuaire. Elle cite Daniel 12. Et Daniel 12 dit quoi? Plusieurs seront purifiés et blanchis. Mes amis, est-ce que vous pouvez être purifiés si vous n'acceptez pas le message du sanctuaire qui nous parle de l'expiation en deux phases? La première pour le pardon, la seconde pour la purification. Non. Donc, cela fait très clairement allusion aux adventistes, mais pas n'importe lesquels. Parce qu'il y a les adventistes millérites. Mais là, très précisément, aux adventistes du septième jour. En d'autres termes, Ellen White a vu, Dieu lui a montré que les sages des derniers jours, autrement dit, les adventistes du septième jour, devraient comprendre l'apocryphe. Avant de vérifier si effectivement les pionniers ont su distinguer et su comprendre les apocryphes, considérons la déclaration suivante où on voit ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la lettre 153A, 1897, paragraphe 6, « Nous sommes maintenant au milieu des périls du dernier jour où beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés. » Et après, elle cite Daniel 12, verset 10. Remarquez, en 1897, elle dit « Nous sommes au milieu des périls du dernier jour où beaucoup seront purifiés et blanchis et éprouvés. » C'est donc la preuve de ce que je vous disais il y a quelques instants, à savoir que les sages des derniers jours qui comprendront sont bel et bien ce « nous » dont elle parle, le peuple adventiste du septième jour, mes amis. Donc, les pionniers adventistes du septième jour, le peuple adventiste, est censé avoir cette compréhension-là que nous avons exposée maintenant. Et voyons voir si c'est le cas. Les pionniers adventistes du septième jour et les apocryphes. J.N. Andrews, dans A Refutation of the Claim of the Sunday Keeping to Divine Authority, à la page 10 du paragraphe 3, déclara « On prétend cependant qu'il ait fait mention de l'observation du premier jour avant Justin. On pense que la première indication de ce genre provient d'un écrit apocryphe appelé l'Épître de Barnabas. Mais cette épître est contestée du fait qu'il n'y a aucune preuve de son authenticité. Eusèbe, qui vivait à peu près au moment où il a été écrit, le mentionne comme un écrit fallacieux qui n'a droit à aucun crédit. » Remarquez, J.N. Andrews, qui est un pionnier adventiste, savait traiter l'apocryphe. Il comprenait. Okay? Il savait interagir avec l'apocryphe. Il le comprenait. Il savait ce qu'il en était. S.N. Anskell, dans The Cross and Its Shadow, à la page 48, paragraphe 5, déclara « L'auteur de l'apocryphe déclare que l'ange sera à nouveau présenté dans les derniers temps. » Donc là, il dit, l'auteur de l'apocryphe déclare que l'ange sera à nouveau présenté dans les derniers jours. Donc là, il fait une affirmation. Mais remarquez comment il va poursuivre sa phrase. « Que cette copie de la loi que Dieu a donnée au Sinaï soit à nouveau révélée ou non, il y aura une copie de cette même loi tracée comme avec une plume de feu dans les cieux, devant le regard émerveillé des habitants de la terre en relation avec la seconde venue du Christ sur la terre. » Et il cite le psaume 97, verset 6 et 98, verset 2, que je vous invite à lire pour vous, chez vous, pour voir que c'est bien cela. Donc, il voit que l'apocryphe dit que l'arche sera à nouveau présentée, et il dit, l'apocryphe dit ça, ok. Mais en fait, que ce soit le cas ou pas, voilà ce que la Bible le dit. Vous avez vu comment le pionnier interagissait avec les apocryphes? Voilà la façon d'agir, mes amis, en fait. OK? Il dit aussi la chose suivante, à la page 296, paragraphe 4 du même ouvrage. Il n'est pas certain que le livre de l'apocryphe qui porte son nom soit une histoire ou un roman historique. Mais d'après le récit qui y est donné, Judith restera toujours l'une des figures de proue parmi les livreurs de sa nation. Comme Jaël, elle a tué le chef de l'armée ennemie. Et donc ici, Juge 4, verset 21. Remarquez, ici il dit, il n'est pas certain que le livre de l'apocryphe qui porte son nom, donc Judith, soit une histoire ou un roman historique. D'accord? Donc il ne portait pas crédit en fait à cet ouvrage. D'accord? Mais le fait qu'elle a accompli un exploit, il a simplement fait un parallèle avec Jaël en fait. D'accord? A.G. Wagoner, dans The Sign of the Time, volume 14, le 1er juin 1888, page 336, paragraphe 8. Il peut être intéressant pour nos lecteurs de noter la différence de ton entre les écritures apocryphes et inspirées. Et nous leur donnons donc ce qui suit avec l'introduction que nous avons extrait d'un récent numéro de Independent. Bien qu'il soit vrai, quant au fait, le psaume n'a aucune ressemblance avec les psaumes authentiques de David. Il manque simplement d'inspiration. Donc, remarquez, et dans le journal, le Sign of the Time, il cite le psaume apocryphe. Mais de quelle manière? C'est pour montrer qu'il n'y a pas d'inspiration, en fait. D'accord? Il veut montrer la différence qu'il y a entre ce qui est inspiré et ce qui ne l'est pas. E.J. Wagoner, mes amis, comme S.N. Hanskell et J.N. Andrews, comprenaient les apocryphes. Ils savaient comment agir avec eux. M.E. Cornell, qui est lui aussi un pionnier, a écrit dans un ouvrage intitulé Fact and Time, ou Fact of the Time, et je vous invite à télécharger le PDF pour bien voir. Parce que ce qui est marqué là, c'est simplement une capture d'écran en fait que j'ai fait, parce qu'il m'aurait fallu beaucoup de temps pour traduire tout ça, et j'ai déjà fait beaucoup de travail de traduction. Mais simplement, ce qui nous intéresse ici, ce sont les titres. Remarquez. Le premier titre en haut, c'est « Is the soul immortal ?» C'est-à-dire, « L'âme est-elle immortelle ?» C'est une question. Et après, il va prendre trois témoignages. Le premier titre en dessous, c'est « Le témoignage de la Bible ». Le deuxième titre, c'est le témoignage de l'apocryphe. Et le troisième titre, c'est le témoignage des hommes. Remarquez comment ce pionnier comprenait les apocryphes. Il dit le témoignage de la Bible. Après, il dit le témoignage de l'apocryphe. En fait, pour lui, l'apocryphe n'était pas la Bible. Et la Bible n'était pas l'apocryphe. Et c'est en tant que tel qu'il le citait. Les pionniers citaient les apocryphes en tant qu'apocryphes et pas en tant que texte de la Bible, mes amis. Et cette façon d'agir-là, Ellen White disait que c'est comprendre les apocryphes. En conclusion, que dirons-nous, mes amis? Notre maître déclara en Matthieu 4, verset 4, « Mais Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mes amis, je ne sais pas quelle est la première chose que vous faites le matin en vous réveillant, ou peut-être la dernière chose que vous faites avant de vous coucher. Je ne sais pas en réalité combien de repas que vous prenez chaque jour. Mais si vous êtes à 3 repas par jour, si vous êtes encore à 3 repas par jour, bien, vous devriez normalement manger 3 fois par jour pour restaurer votre âme par la parole de Dieu. Car autant nous mangeons pour notre corps, autant nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas un pain à la farine blanche, mes amis, la parole de Dieu. Non. C'est un pain à la farine complète. Il nous faut une parole de Dieu qui est complète, mes amis. Il nous faut une parole de Dieu qui est complète. Ce n'est pas un pain qui ne nourrit pas, comme la farine blanche, quelque chose qui manque de fibres pour la digestion et puis qu'il n'y a pas suffisamment de vitamines. Non. La parole de Dieu, mes amis, c'est un pain qui est complet. C'est un pain qui est complet. Comment s'assurer que, vraiment, avec comment s'assurer que, vraiment, ce que nous avons là, Bible en main, c'est vraiment la parole de Dieu complète. C'est vraiment le pain complet là que nous avons là. Tout ce qu'il nous faut, vraiment. Lévitique 24, versets 5 et 6. Tu prendras aussi de la fleur de farine et tu la cuiras en 12 gâteaux. Certaines versions disent pain de proposition, des pains. Là, c'est gâteau dans ma version, Osterwald. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes et tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Voilà la description et notez ce que j'ai mis, ce que j'ai souligné. Ici, nous avons la description de ce qui est sur la table des pains de proposition. D'accord? Remarquez comment les pains de proposition étaient rangés. Vous aviez 2 piles de 6 pains. Vous en aviez 12. 2 piles de 6. Ce n'est pas 3 piles. Ce n'est pas une pile, c'est 2 piles. Et vous avez 6 et 6. C'est intéressant parce que, voyez-vous, l'ouvrage que j'ai entre les mains est constitué de 66 livres. Et le symbole de la parole de Dieu dans le sanctuaire, eh bien, est présenté comme étant 6 et 6. L'endroit où on mange, qui représente la parole de Dieu, la nourriture, qui devait être changée chaque sabbat, eh bien, est présenté comme étant 2 tas de 6 pains, 6 gâteaux dans ma version, est-il dit. Mes amis, nous avons la parole de Dieu entre nos mains. Nous avons ici le pain complet que le ciel nous a envoyé, mes amis, pour n'avoir aucune carence spirituelle. Je ne sais pas pour vous, mais je désire accepter ce pain complet tel que Dieu me l'a donné, sans rien y retrancher, mais aussi sans rien y ajouter. Parce que c'est ce qui est nécessaire pour ma croissance spirituelle, mes amis. C'est ce dont j'ai besoin. Et je pense que si moi, j'en ai besoin, je pense que vous aussi, vous en avez besoin. C'est pour cela, mes amis, que je vous invite sincèrement à vous aussi comprendre les apocryphes, comme nous le dit l'inspiration, à savoir comment interagir en suivant l'exemple que les premiers sages de la prophétie nous ont montré. Ils savaient bien distinguer les choses. Ils citaient les apocryphes en tant qu'apocryphes et pas en tant que livres de la Bible. Okay? Puisse Dieu nous bénir. Puisse-t-il bénir sa parole. Et puissions-nous croître par son moyen et ainsi nous tenir devant lui sans tâche. Amen. Ok. Bien, je vous invite à prier avec moi. Ah, si, peut couper. Ouais. Okay. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, Nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci car tu nous l'as donnée, complète et entière. Tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour parfaire un caractère, pour avoir une révélation complète de ton caractère et de Christ, ton Fils Jésus. Alors, aide-nous, Père, à considérer cette parole pleine et entière que tu nous as communiquée. Aide-nous à avoir aussi un rapport correct avec l'apocryphe, qui est le livre caché, et que nous puissions interagir en tant que tel, être en mesure de distinguer ce qu'est ta parole, la Bible, les Saintes Écritures et les écrits apocryphes qui sont utiles à lire pour avoir une meilleure compréhension du contexte historique du temps dans lequel ton peuple a évolué à travers les âges, notamment les 400 ans qui ont eu lieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Bénis chacun d'entre nous, Père, et que nous puissions nous nourrir de ta parole, car c'est par elle que nous serons jugés à la fin. Alors aide-nous, Père, à épuiser tout ce dont nous avons besoin pour notre salut, tant que cela est accessible, et que ta volonté soit faite dans nos vies. Merci pour tout, nous t'en prions, Jésus, Père. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.